France Culture. Les nuits de France Culture.
Après sa mort soudaine en 1961, l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty tombe vite dans une forme d'oubli. Pour certains, surtout en France, il n'est qu'un simple lecteur de Husserl, voire un vulgaire imitateur qui n'a pas produit une pensée proprement originale. Pour d'autres, c'est un philosophe mineur tout au plus, un petit existentialiste qui ne mérite d'attention que pour sa contribution à la revue Les Temps modernes. On raille notamment son écriture, considérée comme trop poétique, trop littéraire pour être prise sérieusement par le monde académique. Ailleurs dans le monde, pourtant, on saisit déjà l'importance de cette œuvre sans pareil. En Italie, au Japon et aux États-Unis notamment, des colloques s'organisent, des spécialistes se forment, et la pensée du philosophe français connaît une renaissance loin des terres qui l'ont vu naître. En France, il faut attendre la fin des années 90, voire les années 2000, avant que Merleau-Ponty rentre enfin dans le canon académique et soit reconnu à sa juste valeur. Comment expliquer ce phénomène qui semble aujourd'hui difficile à comprendre ? C'est sans doute l'originalité excessive d'une pensée défiant les normes, défaisant les axiomes et acceptant la part d'ombre et d'irrationnel que doit comporter une démarche philosophique liée au corps et au monde qui a rebuté les esprits trop étroits, des philosophes restés bloqués dans l'archaïsme de l'école cartésienne. C'est ce que met en avant ce numéro de Surpris par la nuit, consacré à l'auteur de la phénoménologie de la perception, par Marc Armengaud et réalisé par Gaël Gillon. On y entend une pléthore de philosophes et d'écrivains cherchant à redorer une bonne fois pour toutes le blason de cette pensée qui a failli se perdre dans les limbes de l'histoire, dont Jacques Carelli, Roger Grenier, Vincent Peillon, Jean-Bertrand Pontalis ou encore Renaud Barbaras. Une émission diffusée pour la première fois le 4 octobre 2000 sur France Culture.
Surpris par la nuit.
Redécouverte de Maurice Merleau-Ponty. La pensée interrompue. Marc Armengaud, Gaël Gillon.
C'est un auteur que j'ai lu quand j'étais jeune. Vous savez, Merleau-Ponty est un auteur qui a beaucoup travaillé dans le fond sur la lumière. Et j'ai le souvenir qu'à cet âge où on cherche un peu de façon avide dans la bibliothèque, j'ai pris des livres de Merleau-Ponty et je les ai lus dans une grande lumière qu'il connaissait, qui est celle du sud de la France. Et j'ai été tout à fait surpris de justement cette espèce de beauté lumineuse de l'œuvre. Et dans le fond, au départ, comme souvent quand on commence à lire les auteurs, plus sensuel que conceptuel. Vous avez un premier sentiment, une première appréhension qui est quasiment physique. Et c'est une manière d'écrire, c'est ce qu'il nommait lui-même le style. Et puis après, pour essayer de le comprendre, quand c'est un philosophe, eh bien vous le lisez, vous le relisez, vous l'annotez, vous lisez ce que lui-même a lu, vous essayez de comprendre. Mais la première rencontre est une rencontre dont je garde le souvenir. C'était au plan de la Tour, je devais avoir 19 ou 20 ans. Et j'ai lu Le Visible et l'Invisible dans une pièce qui était extrêmement lumineuse avec le chant des cigales dehors. Et c'est vrai que sans doute ce rapport physique et très heureux à l'œuvre, eh bien, est resté dans les années après d'études.
J'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études à l'université de Naples, d'ailleurs par la fondation Croce, et j'avais vu Merleau-Ponty juste avant, qui m'avait dit « lisez Croce ». Vous verrez, il y a une mine d'or, on ne parle pas de ce philosophe, il y a une mine d'or. J'avais lu l'Esthétique de Croce, et comme les paysages étaient magnifiques, je me disais, mais est-ce qu'il y a des ouvrages philosophiques qui peuvent tenir le coup devant des paysages ? Et en fait, je partais avec la phénologie de la perception, et j'ai lu la phénologie de la perception à Pouzol ou ailleurs, et j'ai oui, ça c'est vraiment des livres qui tiennent le coup, au contraire, ça me fait voir le paysage. C'est pour dire la manière dont cette lecture merleau-pontienne m'a permis d'informer ma propre vision des choses.
...1959, entretien avec Georges Charbonnier.
La philosophie m'est apparue d'emblée comme quelque chose d'extrêmement concret. Pas du tout comme construction de concepts, de systèmes, mais plutôt comme expression, élucidation, explicitation, comme vous voudrez dire, de ce que nous vivons tous, et de ce que nous vivons de plus concret. Je crois que certains deviennent philosophes parce qu'ils sont le siège de conflits. Pas parce qu'il y a en eux des tendances contradictoires, alors ils éprouvent le besoin d'arbitrer ces tendances ou de choisir entre elles. Ça n'est pas du tout mon cas. J'ai conçu la philosophie comme, non pas du tout comme un drame dès ce moment-là, mais plutôt comme, enfin, comme quelque chose d'assez apparenté en somme à l'art, si vous voulez. C'est-à-dire comme une tentative d'expression rigoureuse, de faire passer en mots ce qui, d'ordinaire, ne se met pas en mots, ou ce qui, même quelquefois, est considéré comme de l'ordre de l'inexprimable.
La pensée est là, on la voit qui se dresse, enceinte de digues et de douves, où est la porte qui mène vers le cœur. Dans le labyrinthe élégant des articles, des inédits, des notes de cours et des textes rares, on cherche un fil à tisser. Par où commencer? Au hasard? Mais simplement suivre le cheminement d'une pensée, par son style, serait s'initier au projet de l'œuvre, s'y rendre sensible. C'est à cette première rencontre avec l'œuvre, comme un corps ou un paysage, que nous renvoient Vincent Peillon et Jacques Garelli, que nous avons entendus. Merleau-Ponty, phénoménologue du corps, penseur de l'ambiguïté en politique, mais aussi défricheur des sciences humaines, linguistique, psychologie de l'enfant, capable de renouveler Descartes avec Cézanne, de poser le geste et le silence comme des catégories fondamentales de l'expression, de revendiquer le style comme pensée en soi, nécessaire à la philosophie. Écrivain donc, mais pas de fiction, fin et rigoureux. Merleau-Ponty, philosophie majeure, figure discrète.
Factuellement, enfin, comme ça descriptivement, on peut dire que, je crois, moi j'étais évidemment enfant, donc je ne peux rien en dire, mais je crois que quand Merleau-Ponty est mort, il était extrêmement célèbre, hein, extrêmement important, et c'est
Renaud Barbaras.
Ce titre, évidemment. Et très vite, je crois qu'on a assisté à une occultation, pas une occultation, parce qu'il n'y a pas eu d'intention nulle part, mais simplement à une disparition du paysage philosophique, hein. Et en tout cas, dans les années où moi, je suis devenu adulte et étudiant, c'est dans les années 70 et 80 ensuite, Merleau-Ponty était un auteur... Bon, quand j'étais étudiant, par exemple, Merleau-Ponty était un auteur dont on ne parlait pas. Et quand on en parlait, c'était pour dire au mieux que c'était un auteur mineur, et au pire que c'était de la littérature, si vous voulez. Donc on en parlait en des termes extraordinairement critiques. Alors c'est une époque très, très, très marquée par l'épistémologie, par le marxisme, et donc il n'y avait pas de place pour la phénoménologie, ou en tout cas pour cette phénoménologie. Hein. Moi je me souviens, quand j'étais à l'école normale supérieure, à Saint-Cloud, parler de questions métaphysiques ou éthiques, hein, ou parler de phénoménologie ou d'une phénoménologie qui ne serait pas la phénoménologie scientifique, entre guillemets, ou searlienne, c'était vraiment sortir du champ de ce qui était lisible. Enfin, c'est très, très impressionnant. On l'a oublié, hein, le degré de dogmatisme qui régnait dans le monde philosophique dans les années 70 et 80. Alors, il y a eu, évidemment, les choses ont changé. Alors, il n'y a pas de date assignable, mais en tout cas, on peut dire que, oui, autour de 90, les choses ont commencé à changer, et on assiste depuis 10 ans, alors, à une explosion véritablement de l'intérêt, enfin une intensification et une généralisation de l'intérêt pour la pensée de Merleau-Ponty, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire à la fois en quelque sorte quantitativement, c'est-à-dire que géographiquement d'abord, dans le monde entier, on lit Merleau-Ponty, on commente Merleau-Ponty, on le publie, on travaille dessus. En France en tout cas, et ailleurs aussi, il y a de plus en plus d'étudiants qui le travaille, donc il y a un phénomène massif, si vous voulez, et puis par là même, d'un autre point de vue, le Merleau-Ponty est reçu maintenant comme un auteur important. Alors, ce n'est pas encore fait partout, mais ce qui est frappant, par exemple, c'est que dans l'université, il y a bien peu de temps qu'on peut parler de Merleau-Ponty comme d'un auteur classique. C'est-à-dire que l'éclipse qui caractérise la situation française, liée au structuralisme, liée à un certain poids du courant heideggerien, mais j'y reviendrai tout à l'heure peut-être, ne s'est pas produite dans certains pays. J'en citerai au moins trois. L'Italie. C'est très frappant de constater que depuis les années 60, depuis la mort de Merleau-Ponty, très régulièrement sortent des choses. Et l'autre jour, j'ai participé à un colloque à Milan sur Merleau-Ponty, et on parlait des générations de Merleau-Ponty, parce qu'il y a déjà des générations. Et en Italie, il compte déjà trois générations de lecteurs. C'est extraordinaire. Il y a trois générations de lecteurs, ce qui montre simplement qu'on n'a jamais cessé de lire Merleau-Ponty. Le Japon, qui est sans doute le pays du monde où on a le plus travaillé Merleau-Ponty. Et puis les États-Unis. Il y a un Merleau-Ponty Circle qui doit maintenant en être à sa 26e ou 27e session, c'est-à-dire que tous les ans, vous avez un colloque aux États-Unis, aux universités américaines, où tous les spécialistes de Merleau-Ponty se retrouvent et on parle de Merleau-Ponty, et beaucoup de choses sont publiées naturellement. Donc il y a une continuité. Maintenant, on pourrait évidemment introduire des différences culturelles et constater qu'au Japon, l'intérêt, évidemment, c'est un collègue japonais qui me l'a dit, enfin que l'intérêt pour la tentative du visible et l'invisible, et pour une pensée de la chair, par-delà la différence sujet-objet, trouverait ses racines dans la tradition spirituelle et religieuse, orientale. Donc on pourrait faire une sorte de géographie, culturelle de la réception de Merleau-Ponty, de même qu'aux États-Unis, par exemple, et ça c'est tout à fait caractéristique du style américain, on lit Merleau-Ponty en le confrontant à toutes sortes d'auteurs, et très souvent d'auteurs qui lui sont postérieurs, et donc on ne lit pas nécessairement selon l'unité de son projet, et pas souvent selon son inscription dans une tradition. Par exemple, on le coupe de Husserl, non pas délibérément, mais on se passe, si vous voulez, de la tradition husserlienne, ce qui n'est pas du tout l'attitude, par exemple, française.
Comment le lire? D'où parle-t-il? Difficile de le situer. On l'a souvent réduit à une exégèse française psychologisante de Husserl. On négligeait ainsi à la fois la diversité de ses lectures, de champs et de contenus, et sa façon de lire. À propos de Husserl, justement, il disait « En le lisant, nous avons eu l'impression de retrouver les réponses aux questions que nous nous posions. » Et en philosophie, ce sont les questions qui comptent, justement. Il faudrait donc deviner la bibliothèque imaginaire de Merleau-Ponty en retraçant l'odyssée des livres qui ont forgé les questions. De Kurt Goldstein à Proust, de Politzer à Uexküll.
Est-ce qu'il y a un problème d'accès au texte de Merleau-Ponty? Est-ce que son style n'est pas finalement quelque chose qui s'interpose entre le lecteur et la pensée, tellement il est fascinant, tellement il est profond?
Vincent Payon.
Je crois surtout que Merleau-Ponty est un penseur qui réfléchit en lisant lui-même et que là est un lecteur de premier plan. Et que la difficulté de l'œuvre, c'est qu'elle suppose de s'approprier toute la connaissance qui est celle de Merleau-Ponty. Vous savez que des premiers travaux jusqu'au dernier, Merleau-Ponty n'a cessé de lire, que ce soit la psychologie de la forme, le behaviorisme au début, donc un certain nombre de connaissances scientifiques de son époque, ou les philosophes comme Husserl, comme Machiavel, comme Montaigne, et il faut toujours, ou comme Bergson, il faut toujours lire en même temps que Merleau-Ponty. Et donc, on ne peut pas être un lecteur paresseux avec Merleau-Ponty. Et c'est un effort important. Il faut, je pense, pour commencer à comprendre Merleau-Ponty, et beaucoup de collègues philosophes me l'ont dit souvent, c'est un auteur difficile, il faut des années de travail en le lisant.
Il y a évidemment, dans le cheminement de Merleau-Ponty, une familiarité constante avec Husserl. Est-ce que c'est pas ça aussi un obstacle pour la lecture peut-être des non-spécialistes? C'est peut-être de réduire Merleau-Ponty à une exégèse française de la phénoménologie allemande.
Écoutez, en effet, Merleau-Ponty, très très tôt, s'est aperçu de l'importance de l'œuvre husserlienne. Et de manière étonnante, puisque à l'époque, finalement, il a lu peu de choses. Il a été à Louvain, parmi les premiers, avec Tranuctao. Il a pris connaissance de manuscrits capitaux, qui étaient évidemment à l'époque inconnus, Ideon 2, la fameuse Crisis, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est le degré de profondeur de sa compréhension et d'acuité de sa compréhension. Et ce que j'allais vous dire, ce qui est extraordinaire, c'est que depuis, on a publié énormément de choses de Husserl, que Merleau-Ponty ne connaissait pas, des manuscrits inédits des années 30 notamment, et on s'aperçoit que Merleau-Ponty a anticipé, sur la base d'un nombre assez restreint de manuscrits, des intuitions husserliennes. Merleau-Ponty, c'est beaucoup plus qu'une exégèse de Husserl, première chose. Hein. C'est-à-dire que, bien sûr, que ça l'inspirait profondément. C'est une des références fondamentales. Il a repris le mouvement, en quelque sorte, mais en même temps, à sa façon, c'est-à-dire de manière très peu technique. Et ça lui était reproché, d'ailleurs, parce que d'un point de vue husserlien, si vous voulez, certains auraient tendance à dire, ben, finalement, c'est une lecture de Husserl insuffisamment rigoureuse, insuffisamment précise, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Simplement, il n'y a pas l'apparence de la technicité. Il y a une reprise très merleau-pontienne de Husserl qui dissimule l'acuité, la précision et la profondeur de son travail.
La pensée fonctionne souvent par mode. Et en France, on a lu Merleau-Ponty, comme d'ailleurs d'autres auteurs, à travers un prisme qui existe, mais qui n'est qu'un prisme, qui était celui de la réception en France de la pensée allemande, et en particulier de la phénoménologie de Husserl, et puis de l'ontologie de Heidegger. Je crois que Merleau-Ponty a été un grand lecteur, incontestablement, de Husserl et Heidegger, mais il ne s'est intéressé à eux, il n'est venu à eux qu'à partir de questions qui lui appartenaient, et ces questions, il les avait forgées dans les années 30 et par sa formation à partir d'une autre tradition qui, elle, était curieusement tout à fait méconnue, l'est un peu moins maintenant, mais le demeure encore, qui est une tradition qui, de Maine de Biran à Bergson, en passant par Lagneau, en passant par Lachelier, en passant par Boutroux, en passant par Pradine, qui a beaucoup compté pour Merleau-Ponty, est une tradition française qui approfondit le terrain, disons, psychologique pour trouver dans le terrain psychologique une voie d'accès à l'être. Alors le psychologique au sens large, ça peut être la sensation, ça peut être plus intellectuel. Et j'ai essayé de montrer que si on voulait véritablement comprendre Merleau-Ponty, il fallait comprendre son interrogation avant de trouver les éléments de réponse, et que pour comprendre son interrogation, il fallait faire un travail, dans le fond, un peu de généalogiste ou d'archéologue pour aller fouiller cette tradition un peu oubliée.
Pour autant, la structure du comportement fonctionne largement comme une critique de Bergson, peut-être du dernier Bergson, plus que des premiers livres. Est-ce que c'est un rapport qui a toujours été conflictuel, ou est-ce qu'il y a eu une évolution de Merleau-Ponty dans son rapport à Bergson ?
Il y a eu une évolution de Merleau-Ponty dans son rapport à Bergson, si ce n'est que ce que vous trouvez dans la structure du comportement, et qui est effectivement une critique de Bergson, est contrebalancé à d'autres moments de la structure du comportement par un autre Bergson. En fait, il y a plusieurs Bergson qui coexistent en même temps. Il y a un Bergson un peu caricaturé et qui est critiqué, mais cette critique, elle est partagée d'ailleurs par Merleau-Ponty, par Sartre à l'époque, et elle vient d'un petit livre de Georges Politzer, qui avait été publié sous le pseudonyme de Harouet à l'époque, qui était une critique très virulente de Bergson, mais comme d'un maître dont on se défait, ce que nous, on ne pouvait pas comprendre 50 ans plus tard. Mais dès le début, en 1942 sûrement, dans la structure du comportement, mais avant aussi, Merleau-Ponty voit un autre Bergson, et plus les années vont passer, plus il va s'intéresser à cet autre Bergson qui était présent dès le début, parce que justement c'est un Bergson plus énigmatique et qui travaille la même interrogation que Merleau-Ponty. Alors il faut que vous fassiez toujours la part, dans les lectures que Merleau-Ponty donne des philosophes, entre les réponses que les philosophes apportent et la question qu'ils posent. Les réponses que Bergson apporte n'intéresse pas beaucoup Merleau-Ponty, mais plus il avance, plus il trouve que la question que pose Bergson est une question intéressante et qui rejoint la sienne.
Est-ce qu'on ne voit pas aussi dans son article Bergson se faisant, dans son discours d'entrée au Collège de France, quasiment un rapport de miroir à ce philosophe qui était aussi un écrivain? On a utilisé l'expression propre de Merleau-Ponty, un philosophe écrivain.
Plus Merleau-Ponty va avancer dans sa propre réflexion, plus ce qu'il va, dans le fond, condamner, c'est ce qu'il appelle la coïncidence. C'est-à-dire cette idée qui anime tout le travail de la pensée, qu'il pourrait y avoir une coïncidence entre la pensée et l'être. Et ce qu'il va trouver chez Bergson, c'est précisément, dans le Bergson qui l'intéresse, et qui est très présent dans Bergson se faisant, c'est plutôt que quelqu'un qui trouve la solution, la fameuse coïncidence, qui en donne sa version, comme chaque grand système métaphysique l'a fait, ou comme Marx le fait encore, c'est quelqu'un qui va essayer de problématiser la non-coïncidence. Et quand on problématise la non-coïncidence, on problématise quelque chose qui nous échappe. Et là, il est vrai que les vertus de l'écriture ou de l'expression par rapport aux pures vertus du concept qui cherche à saisir de façon analytique, eh bien, deviennent de plus en plus importantes parce que cette non-coïncidence, eh bien, elle se glisse, elle s'esquisse à travers des formes langagières qui ne sont pas les formes traditionnelles du langage philosophique. Et là, il y a sans doute des éléments communs entre Bergson et Merleau-Ponty dans l'attachement même au caractère expressif de la philosophie, sachant que pour l'un comme pour l'autre, l'expression va toujours plus loin que ce qu'elle exprime, c'est-à-dire que son contenu. Il y a là un élément qu'on ne peut pas maîtriser, et c'est dans cet élément qu'on ne maîtrise pas que quelque chose, de façon oblique, obscure, bien avance et se dit. Et sans aucun doute, il y a là, entre Merleau-Ponty et Bergson, je crois, ils appartiennent, de ce point de vue-là, à la même exigence de pensée.
L'écriture, l'expression, Vincent Paillon engage la difficulté. Comment parler de Merleau-Ponty ? La rigueur du renouveau universitaire des études philosophiques sur Merleau-Ponty ne doit pas masquer le fossé entre la lecture des non-spécialistes, nombreux et inventifs d'ailleurs, et la relative clôture qu'impose le regard technique sur le calcul de l'œuvre. Pourtant, les spécialistes ont en commun avec les lecteurs d'aventure cette même épreuve paradoxale, l'attrait d'une langue, la captation de l'analyse par le choix des mots, au risque de ne pouvoir s'en défaire, au ridicule de croire l'expliquer quand on ne fait que le défaire pour le refaire. Château de cubes dont on ne peut échanger les éléments avec ceux d'une autre boîte. Pourtant, il y a une double nécessité que nous impose cette pensée, trouver nos propres mots, pour comprendre la rigueur des siens.
Renaud Barbaras, est-ce que la singularité de son style, on a parlé d'un philosophe écrivain, n'est pas d'une certaine manière un obstacle à sa compréhension ? Est-ce que, pour le commenter, on n'est pas toujours réduit d'abord à le singer ?
Vous avez parfaitement raison, c'est le risque, c'est celui du mimétisme. Et d'ailleurs, je m'en aperçois à travers les travaux que je dirige de maîtrise et de DEA, très souvent, les étudiants ont la plus grande difficulté à parler de Merleau-Ponty autrement qu'en parlant Merleau-Ponty, si j'ose dire, en parlant le langage de Merleau-Ponty. Il y a un phénomène du mimétisme qui tient au caractère évidemment fascinant de son écriture, au fait qu'il y a une écriture, au caractère fascinant, singulier de son écriture, et au fait que ses concepts, comme tout penseur, mais plus encore, je crois, que d'autres, que ces concepts sont, pour ainsi dire, pris, sertis dans son langage, de manière extrêmement serrée, extrêmement forte. De sorte que, pour dire autrement ce qu'il cherche à dire, il faut faire un effort de création considérable, parce que ces concepts sont dans ces mots. Et si on change de mots, et d'une certaine façon, c'est plus tout à fait le même concept. Donc voilà la difficulté, effectivement, qui est singulière et qui en même temps qui a une signification historique, puisque par rapport à la tradition allemande, philosophique allemande, on peut constater qu'en France, la plupart des penseurs, enfin importants, sont des écrivains. Qu'on pense à Descartes, à Malebranche ou plus près de nous à Bergson, il s'agit de gens qui n'ont jamais séparé le travail de l'écriture du travail de la pensée.
J.B. Pantalis.
D'abord, la première rencontre intermédiaire, ça a été celle que j'ai eue avec Claude Lefort, quand nous étions en Cagnes, Henri IV, tous les deux. Et il avait eu comme professeur au lycée Carnot, Merleau-Ponty, dont je ne connaissais pas le nom. Et moi, j'avais eu comme professeur au lycée Pasteur, Jean-Paul Sartre. Donc vous voyez que d'emblée, le dialogue Merleau-Ponty-Sartre était par procuration engagé entre nous. Ensuite, j'ai connu Merleau-Ponty, qu'on appelait souvent Merleau d'ailleurs, plus comme un ami, parce que je ne l'ai donc pas eu comme professeur, dans les années qui ont suivi la libération. Nous sortions souvent ensemble, nous avons voyagé ensemble. Je me souviens d'un grand voyage en Espagne que nous avions fait, ma femme et moi, et Merleau-Ponty et la sienne. Et voilà, ça a été une relation, nous allions en boîte aussi, souvent. Et ça a été le premier temps. Ensuite, il a eu la gentillesse dont le fort aussi bénéficié quand nous préparions l'agrégation l'un et l'autre, de nous y préparer, en faisant des exercices pour ce qu'on appelait les leçons. Et donc j'ai été très reconnaissant de ça. Alors toujours sur la question de l'agrégation, je me souviens que j'avais eu comme sujet ce qu'on appelait la grande leçon, c'est-à-dire quand on doit causer pendant une heure, j'avais eu comme sujet vice et vertu de l'expression, ce qui était un thème assez merleau-pontien. Et pendant la période où on a, en bibliothèque, on a le temps de prendre les livres qui sont susceptibles de vous aider à préparer cette leçon, j'avais appris la phénoménologie de la perception. Et quand les 6 heures sont passées, que ça allait être mon tour, j'étais complètement paniqué parce que je n'avais rien pu vraiment ordonner. Et je me souviens encore, je suis arrivé à l'amphithéâtre, vraiment comme un petit taureau qu'on jetterait dans l'arène, terrorisé. Je ne vais pas pouvoir dire 3 mots. Et je vois à quoi ça tient, parce que j'étais très imprégné de ce que je connaissais de Merleau et ce que je venais de relire, mais que ce n'est pas une pensée qui peut se résumer, qui est très très liée à l'écriture, qui est très liée au style, et donc qui est difficile de mettre en relief comme il faut dans un exposé comme ça universitaire. Et je m'en suis très bien sorti, curieusement, donc avec très peu de notes, et je crois parce que toujours la question de l'imprégnation, à mon insu, j'ai retrouvé des intonations de Merleau-Ponty. C'est comme si c'était pas tellement le contenu de ce que j'ai pu dire, mais le ton, la voix. Il avait une voix très, très douce, mais en même temps très ferme, douceur et fermeté, et comme si j'avais été une espèce de, je dirais pas de clone, enfin de transmetteur de la voix de Merleau-Ponty, et à travers cette voix de sa pensée, sans pouvoir vraiment la conceptualiser. Mais c'est une pensée qui n'est... comment dire... dont il faut suivre le mouvement. Donc, qu'il faut accompagner beaucoup plus, et qui est très difficile à objectiver. Donc, qui n'est pas une pensée de l'ordre du concept. Le concept, c'est. Ça saisit, ou ça cherche à saisir les choses. Tandis que. Donc, ça reviendrait à la question de la perception. S'il y a un primat du perçu, le perçu. S'oppose, en tout cas se différencie du concept, d'une pensée conceptuelle. Donc je pense que ça joue dans la difficulté ou à l'inverse, dans l'émotion, je dirais pas ce qui peut vous prendre à le lire, c'est ce primat de la perception qui, en un sens, se traduit par un certain primat du style, ce qui est assez contraire à la tradition philosophique française, et encore plus allemande, parce que Kant, on ne peut pas dire que ce soit un philosophe qui est du style. Et Merleau-Ponty, je me souviens d'un collègue qui disait, mais Merleau-Ponty, c'est un essayiste, qui est complètement idiot. Mais parce qu'un essai, justement, le rapport entre le langage et la pensée est beaucoup plus intime que chez le philosophe, qui, lui, va carrément, si on pense, je ne sais pas, je disais Kant ou à Hegel, il n'y a peut-être que Descartes qui, lui, soit un écrivain. Merleau-Ponty est un écrivain philosophe, mais un écrivain.
Paris n'est pas pour moi un objet à 1000 facettes, une somme de perceptions, ni d'ailleurs la loi de toutes ces perceptions. Comme un être manifeste la même essence affective dans les gestes de sa main, dans sa démarche et dans le son de sa voix, chaque perception expresse dans mon voyage à travers Paris, les cafés, les visages des gens, les peupliers des quais, les tournants de la Seine, est découpée dans l'être total de Paris, ne fait que confirmer un certain style ou un certain sens de Paris. Et quand j'y suis arrivée pour la première fois, les premières rues que j'ai vues à la sortie de la gare n'ont été, comme les premières paroles d'un inconnu, que les manifestations d'une essence encore ambiguë, mais déjà incomparable. Nous ne percevons presque aucun objet, comme nous ne voyons pas les yeux d'un visage familier, mais son regard et son expression. Il y a là un sens latent, diffus à travers le paysage ou la ville, que nous retrouvons dans une évidence spécifique, sans avoir besoin de le définir. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception.
Jacques Garelli.
Il y a une invention du langage. On le lui a reproché, alors qu'à mon sens, c'est au contraire la richesse extrême de sa pensée. Et on avait dit, ils pensent. Quand ils ont difficulté, ils développent une pensée métaphorique. C'est faux. Et chez Merleau-Ponty, il y a d'ailleurs un passage dans Le Visible et l'Invisible où il parle des gens qui parlent tout le temps de métaphores. Et il dit, c'est trop et pas assez. Et son langage n'est pas métaphorique. Son langage réussit à excéder, sortir de l'ordre strictement discursif de la prose philosophique habituelle pour nous donner justement ce rapport à l'être qui implique invention et qui passe chez lui par une invention verbale. Ça, c'est clair. Mais à mon sens, c'est là l'une de ses grandes innovations. C'est là son talent énorme. Et lorsqu'il nous dit « l'être exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience », il y a une création et philosophique et du poyen philosophique chez lui. Ça, c'est net.
Au-delà des obstacles historiques, singularité de l'œuvre. Dans son petit projet de recherche manuscrit de 1933, Merleau-Ponty n'est déjà plus un étudiant. Il a 25 ans, mais définit avec une acuité stupéfiante le cadre de ce qu'il va s'attacher à explorer, mettre en mots pendant les 25 années suivantes. L'interrogation sur le concret, la revendication d'une philosophie qui rende compte de la vie dans les détails de son organisation, sont le point de départ de son exploration de la perception. Ce que j'expérimente avec mon corps, vois ou touche, est un acte qui d'emblée distribue du sens, retrouve dans les choses la possibilité de les exprimer. Il y a une double complicité entre celui qui perçoit et ce qui est perçu. Ils appartiennent au même champ, et il devient impossible de continuer à penser l'expérience comme une joute frontale sujet-objet. Le monde est une assemblée de corps qui sont reliés, mutuellement innervés, et leurs rencontres sont des mises en partage de leurs organisations, comme une mise en jeu de leur position sur l'échiquier. Mais ce renversement qui disloque la métaphysique procède d'une méthode. Décrire l'existence par la différence. Merleau-Ponty s'est passionné pour l'enfance, l'animalité, la sexualité, la folie, l'expression artistique. Merleau-Ponty, penseur de la limite, du détour par l'état de crise pour redéfinir la valeur de sens du centre. Et cet effort phénoménologique débouche alors sur une surprise. C'est la notion même de centre, cette vieille notion métaphysique, qu'il faudra supprimer. Ce n'était qu'une fiction de l'affrontement sujet-objet. Il faudra renoncer à l'abri du fort intérieur.
Merleau-Ponty a cherché à être un penseur de l'indistinction humaine, c'est-à-dire que dans l'homme, il y a des éléments extrêmement différents qui vont du corps physiologique jusqu'à la spiritualité la plus éthérée. Et Merleau-Ponty n'a jamais voulu séparer ces différents éléments. Il a toujours voulu inscrire la tâche de la pensée dans l'éclaircissement de cette indistinction, ce qu'il appelle l'existence indivise. Et là, il y avait une richesse formidable et une façon à la fois de vivre sa pensée qui fait que ça ne peut pas être seulement un producteur de concepts, mais c'est en même temps, quand on le lit, un homme total qu'on essaye de lire, et c'est ça qui l'intéresse. Il cite, je le cite au début de mon ouvrage, un mot d'André Breton sur le point sublime, disant que tout homme essaye d'être à ce point sublime où on est tout à la fois, c'est-à-dire le père, l'amant, le professeur, l'homme engagé, et qu'il faut essayer d'inscrire son existence à ce niveau où toutes ces choses se tiennent encore, plutôt qu'après les séparer, les professionnaliser ou les mettre en scène.
Je me rappelle très bien que, bien avant les temps modernes, dans la période de la guerre, nous avons eu une conversation un jour avec un garçon qui a quitté la France d'ailleurs, qui s'est établi aux États-Unis. Une conversation politique, c'était au cours de nos activités politiques du moment que cette conversation a eu lieu. Et je me rappelle fort bien que j'avais dit à ce garçon, parce que c'était ce que je pensais, moi ce qui m'intéresse en philosophie, c'est le conditionnement de l'esprit, c'est le lien de l'esprit avec le reste, avec le corps, avec la société, avec le tout social, et non pas, je n'ai jamais conçu l'esprit comme étant, si vous voulez, le négatif, pendant que le corps, la société, le monde seraient le positif. C'est toujours le lien de l'être et le néant, si vous voulez, ou le mélange de l'être et le néant qui m'a intéressé. Et je me rappelle qu'en sortant de cette réunion, quand nous étions retrouvés seuls, Sartre m'avait dit « mais tu as fait bien des concessions à ce marxiste en parlant comme tu l'as fait ». Je lui ai dit, non, je n'ai pas fait de concession, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et c'est dire que Sartre me croyait avec lui plus d'accord que je n'étais dès ce moment-là. Et sa philosophie était à ce moment-là, et est restée dans une large mesure dans la suite, très solidaire de la position cartésienne du cogito. L'esprit, évidemment, l'esprit ne peut s'accomplir que dans le monde, la liberté, nous disions tout à l'heure, ne peut s'accomplir que dans l'engagement, mais si on peut dire, si on peut le penser en lui-même, l'esprit, si on peut la penser en elle-même, la liberté, sont, pour ainsi dire, en face du monde et non pas liées au monde. L'idée de lien est une idée qu'il n'aime pas. Dans L'être et le néant, je me rappelle très bien qu'il dit « La liberté ne rencontre pas d'autres obstacles que ceux qu'elle pose elle-même. » Il y a là, dans la liberté, l'esprit, quelque chose d'absolument insaisissable. Et alors, c'est cette conception des relations, vous voyez que c'est en somme de la pure philosophie, et c'est donc lié aux éléments les plus personnels, comme il arrive toujours en philosophie. C'est la façon d'être fondamentale.
Oui, ce sont les positions instinctives qui apparaissent là.
Oui.
Les positions naturelles.
Qui sont élaborées, exprimées directement ou indirectement, c'est elles qui jouent. Et sur ce point-là, il est évident que j'ai toujours été très différent de lui. Et je crois que
en vous écoutant parler, je me disais que c'était la physiologie de deux hommes qui se heurtaient.
Oui, mais il en est toujours ainsi. Naturellement, on met généralement des masques, c'est-à-dire on préfère... chacun préfère déduire ses doctrines de... Mon Dieu, de prémices tout à fait intemporelles, comme si... Il n'avait pas de passé, comme s'il n'avait pas d'enfance, comme s'il n'avait pas de vie préalable. Mais à mon avis, d'ailleurs, cet enracinement de nos idées dans notre passé, dans notre situation de départ, cet enracinement n'ôte absolument rien à ces idées, à la valeur de ces idées. Puisque nous en sommes tous là, n'est-ce pas ? L'argument que l'on peut tirer contre une idée du fait qu'elle dépend d'un caractère, comme on peut l'appliquer à n'importe quelle idée, cet argument ne nous permet pas de choisir ni de décider, n'est-ce pas ?
Est-ce qu'on a totalement abusivement parlé d'existentialisme à propos de Merleau-Ponty ?
Écoutez, totalement abusivement, non, je ne crois pas. Bon, si on entend par existentialisme...
Renaud Barbaras.
Le mouvement, qui est un mouvement de mode, auquel Sartre a donné naissance à son insu d'ailleurs, bien entendu, bon, il ne s'agit pas de ça, mais si on entend par existentialisme une certaine position philosophique, hein, qui met en avant, en quelque sorte, le caractère, la détermination de l'homme comme existence, si vous voulez... Hein, il est incontestable que dans la phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty reprend ses positions et il définit l'homme par l'existence ou la transcendance. Hein. Donc ça fait aucun doute. Ça fait aucun doute. Simplement, effectivement, lui-même va sentir les dangers de cette caractérisation, qui d'ailleurs, entre parenthèses, vient de Heidegger. Hein, vient de Heidegger, ou plutôt d'une interprétation erronée de Heidegger. Et comme vous le savez, Heidegger a rectifié les choses vis-à-vis de Sartre dans la fameuse lettre sur l'humanisme. Mais quoi qu'il en soit, Merleau-Ponty donc a senti les dangers de cette approche. Hein. Et je crois, indépendamment, si vous voulez, des effets de mode et des effets de public de ce mot d'ordre, de ce slogan, et il s'éloigne donc de ces déterminations de l'homme comme existence dès les années qui suivent la phénoménologie de la perception.
Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à parler facilement de Merleau-Ponty sans parler de Sartre ?
Absolument, et à tel point qu'on ne parle plus beaucoup de Sartre. Et, enfin, on ne parlait plus beaucoup de Sartre. Et il y a eu un phénomène de retournement, je crois, c'est que Merleau-Ponty a éclipsé, enfin, le retour de Merleau-Ponty sur la scène philosophique internationale, véritablement, hein, depuis une quinzaine d'années peut-être, hein, a totalement éclipsé la figure de Sartre, qui de toute façon, je crois, ne serait pas revenue comme ça sur le terrain philosophique, parce qu'il y a d'autres aspects de Sartre qui ont oblitéré, en quelque sorte, ce retour.
D'un point de vue philosophique, si on doit caractériser la différence essentielle entre leurs deux œuvres...
Oh, écoutez, je dirais que Sartre, c'est une philosophie abstraite au sens hegelien, une philosophie d'entendement avec des concepts aux arêtes vives, vous voyez. Et c'est une philosophie qui construit. Donc c'est une philosophie essentiellement dualiste, hein, qui tente de rejoindre en quelque sorte l'expérience phénoménale ou phénoménologique à partir d'un certain nombre de concepts disponibles. Je ne sais plus qui a dit que c'était un hyper-cartésianisme, et c'est vrai qu'en effet, il tente de rejoindre, mais il y a en même temps un effort extraordinaire pour rejoindre et pour coller à la réalité phénoménale à partir de la dualité de l'être et du néant, de l'en-soi et du pour-soi, etc. Alors que Merleau-Ponty prend son point de départ dans le concret phénoménal, dans le phénoménal, et il manifeste une sensibilité, à la diversité, à la fluidité du phénoménal, et il tente de penser le phénoménal à partir de lui-même, par exemple le corps vécu, le corps propre, hein, Merleau-Ponty tente de le penser vraiment à partir de lui-même au lieu de le rejoindre à partir de catégories conceptuelles figées, disponibles.
Vincent Payon.
Merleau-Ponty fait un travail tout à fait différent. Il prend les mêmes éléments que les autres, donc souvent qui sont des éléments binaires dans la pensée, l'esprit et la matière, le bien et le mal, la vérité et l'erreur, et il montre comment on ne peut pas reconstruire ou décrire, peut-être plutôt que reconstruire, le réel avec ces instruments, parce que dans le fond ils sont trop larges, ils sont pas assez fins. Donc Sartre, lui, il se contente de ces reconstructions dialectiques, alors que Merleau-Ponty les déconstruit en permanence pour essayer de s'approcher au plus près du mystère, c'est-à-dire de ce qui ne se laisse pas expliquer par précisément ces concepts trop larges.
Des couples philosophiques, l'histoire a souvent fait des duos inséparables. Platon-Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel ou Searle Heidegger. Avec parfois des philosophes adultérins, puisqu'on peut marier Leibniz à Voltaire et à Spinoza, chez qui il avait envoyé un espion. Mais ces couples intellectuels légendaires servent surtout à illustrer des antinomies de traitement à l'intérieur d'un même jardin philosophique. On pourrait aussi jouer de ce dualisme d'école avec Sartre et Merleau-Ponty. Le premier radicalise le conflit du sujet avec le monde, au point que la réconciliation impossible devient le moteur de toute expérience, tandis que le second fait de l'unité de l'expérience, malgré les conflits, le fait premier mystérieux dont il faut rendre compte. Et puis les grands couples philosophiques n'étaient pas des duos de stars. Réellement, ils étaient seuls, séparés. Tandis que Sartre et Merleau-Ponty furent longtemps ensemble, amis et acteurs d'une pièce qu'ils écrivaient ensemble, Les Temps modernes. En ce sens, ils ont formé une paire gagnante aussi longtemps qu'ils cherchaient ensemble l'image d'une gauche, d'une société, qui soit une pensée du présent. Lorsque ce lien-là s'est distendu, la dérive de leur continent parut comme un effondrement géopolitique irrécupérable. Une guerre civile et privée inconsolable, une impossible gémilité, mise en échec, comme pour vérifier le mythe de Caïn. Roger Grenier.
Mes relations avec Merleau-Ponty datent des débuts des temps modernes. Parce que j'ai l'impression que c'était quand même lui qui faisait la revue, plus que Sartre et Beauvoir. Moi, toutes les lettres concernant des articles que je pouvais faire au temps moderne ou des rendez-vous de rédaction, ce sont toutes des lettres signées Merleau-Ponty, aucune de Sartre ou de Beauvoir. Elles sont des lettres très très courtoises au début, puis qui deviennent de plus en plus amicales, bien entendu. Alors comment je l'ai connu? Oh ben, je pense que ça s'est fait tout naturellement, parce que moi j'étais à Combat et tout ce monde était lié, quoi. Camus, les gens qui écrivaient dans Combat, Pierre Kaufmann, bon, qui était philosophe, donc c'était normal. D'ailleurs, ça me revient maintenant, quand Merleau-Ponty, la première fois où j'ai vu Merleau-Ponty, où il m'a demandé si je voulais collaborer au temps moderne, il m'a dit, bon, écoutez, en gros, quoi, c'est un peu plus à gauche que Combat, quoi. Voilà notre ligne. Les temps modernes avaient quand même tous les atouts de leur côté. C'était Gallimard l'éditeur, jusqu'au jour d'ailleurs où Malraux a vraiment obligé Gallimard à laisser tomber les temps modernes. Enfin, c'est une page d'histoire qui n'est pas tout à fait écrite encore. On oublie complètement que dans les premiers numéros des temps modernes, on voit des signatures qui paraissent un peu bizarres aujourd'hui. Albert Olivier, qui a été un gaulliste pur et dur, Raymond Aron, Camus, donc, avant la brouille. Dans le fond, les temps modernes, c'était très très large au départ, et ça s'est rétréci petit à petit pour ne plus rester que le noyau des disciples inconditionnels de Sartre. Enfin, il a su, je ne sais pas comment, parce que dans sa première lettre, il me demande un article sur un livre que j'étais en train de préparer, là, le rôle d'accusé, qui est une description un peu phénoménologique de l'appareil judiciaire et de l'accusé en face de l'appareil judiciaire. Alors il me demande si je veux en donner un extrait pour les temps modernes, pour accompagner un article que Jacques-Laurent Boss devait faire sur le procès d'Abel Hermant. Et alors quand j'ai fait, je lui ai donné un extrait de celui que j'étais en train de préparer, le rôle d'accusé, et j'ai eu une lettre très très drôle à ce moment-là de Merleau-Ponty, qui me dit, ah ben, ça tombe bien, parce que dans le même numéro, et ça fera pendant, il y aura un article de Simone de Beauvoir sur le châtiment. Alors, vous dites à peu près la même chose, mais vous n'avez pas quand même le même point de vue. Et alors, il dit, enfin, je le cite, hein, que mon texte est un peu anarchiste, individualiste, mais cette position donne la moitié de la vérité. Et alors, parlant de Simone de Beauvoir et de mon article qui l'oppose ou qui l'unit, il dit « Votre déviation bergsonienne individualiste est corrigée par son article et son article renforcé par votre travail. » C'est assez drôle, puis c'est pas faux finalement.
Est-ce que c'est révélateur de la façon dont il concevait la revue comme un lieu de confrontation d'une génération peut-être?
Non, parce qu'il ajoute que c'est un pur hasard, c'est une coïncidence, il ne faut pas que je voilà une intention, que ça s'est trouvé comme ça, quoi, mais que ce n'est pas plus mal.
J.B. Pantalis,
est-ce que dans le rapport à Sartre, l'aventure des temps modernes n'a pas joué au détriment de Merleau-Ponty, au sens où il en est ressorti très seul?
Oui, ça c'est assez scandaleux, parce que très vite, au départ, Merleau-Ponty était du comité de direction, de rédaction des temps modernes, mais très vite, Sartre et Simone de Beauvoir, qui au départ jouaient vraiment leur rôle de directeur, se sont écartés, et c'est Merleau-Ponty qui a tenu à bout de bras les temps modernes pendant des années et des années, et en se tapant, si je puis dire, tout le boulot ingrat, non seulement de solliciter des auteurs, mais de revoir leurs textes, la correction des preuves, etc. Enfin, vraiment, c'était lui, les temps modernes. Et Sartre lui a toujours laissé les mains libres. Il faut quand même dire que le texte fameux, qui était le sur les camps soviétiques, texte mesuré, enfin qui était une dénonciation, mais comme toujours chez Merleau-Ponty, je dirais pas nuancé, mais argumenté, c'est-à-dire qu'il n'en faisait pas l'équivalent des camps hitlériens, c'est Merleau-Ponty qui l'a écrit et qui a obtenu de Sartre qu'il le co-signa. Bon, concernant le rapport avec les communistes, la grande différence aussi, Sartre a été quand même longtemps un compagnon de route ou de déroute du PC, tout en étant un peu à l'écart, tandis que Merleau-Ponty, qui n'y a jamais, lui, tenu ce rôle, en même temps comprenait. Hein, je me souviens d'une série d'articles, je crois, qu'il avait donné à l'Express, où pour des raisons alimentaires, il avait collaboré vraiment, parce qu'il avait besoin aussi de besogne alimentaire. Hein. C'était pas son traitement de professeur qui suffisait. Et là, il y avait une série d'articles qui s'appelait « Comprendre le communisme hein. ». Pas du tout, donc aller plus ou moins à la remorque, mais essayer de comprendre ce qui était là-dedans. Ce qui a été justement très mal compris, notamment par Camus, qui n'avait déjà pas du tout apprécié le Yogi et le prolétaire, qui est devenu humanisme et terreur. Et je me souviens, parce que j'y assistais, quand c'était venu aux mains, pour dire que j'étais un peu bourré tous les deux, une des fiestas, comme on disait à l'époque, donnait Boris Vian. Et ça, il s'était battu.
Je crois que Camus a mal compris le Yogi et le commissaire qui avait paru en prépublication dans les temps modernes. Il a cru que c'était une justification des procès de Moscou, alors qu'aux yeux de Merleau-Ponty, c'est une explication. Enfin, pas une justification, une explication. Camus a pris ça très très mal. Et il y a eu un incident très très violent. C'était en octobre, je crois, octobre 46, hein, donc très 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 tôt. Et alors, il y a une chose qui est très éloquente à mes yeux, c'est que cet incident s'est produit ça s'est produit au cours d'une nuit, au cours d'une fiesta chez Boris Vian. Bon, ça veut dire que tout le monde était sous. Alors Camus s'est mis à apostropher Merleau-Ponty, puis il est parti dans la rue, bien habité Faubourg-Poissonnière, et Sartre et Jacques Laurent Bosse ont couru après Camus, et ça a été une grande brouille, quoi, qui a déjà duré jusqu'en 1947. C'était le premier incident, dans le fond, entre Camus et l'équipe des temps modernes. Alors moi, ma théorie, c'est que tous les grands conflits idéologiques de cette époque-là, c'était sous le signe de l'alcool. Hein. Les gens buvaient énormément, et quand ils disputaient, c'est qu'ils étaient sous en général. Bon, ça n'empêche pas d'avoir des idées, des principes, des théories, une philosophie, mais quand même, il y avait beaucoup de ça. Bon, il y a un incident célèbre là, où Camus revenait avec un œil au beurre noir, et c'était Kessler. Il avait pris le point de Kessler qui était destiné à Sartre.
Visiblement, avec Camus, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Est-ce que c'était une question de personne, finalement, des tempéraments trop différents ou est-ce qu'il y avait un problème de positionnement par rapport à Sartre? C'est-à-dire chacun incarnant une sorte de gémellité contrariée avec Sartre qui ne pouvait pas souffrir la concurrence de l'autre.
Non, ça je ne crois pas du tout. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur la prétendue amitié de Camus et Sartre. Moi, je pense que Sartre aimait bien Camus, enfin, il aimait l'homme, hein, et il n'avait peut-être pas une estime considérable pour l'œuvre, et que c'était l'inverse, Camus admirait l'œuvre de Sartre, mais n'aimait pas l'homme, enfin, ne le sentait pas, parce que les origines sociales étaient très différentes. Bon, il y a un bourgeois, puis un garçon élevé dans la misère, un méditerranéen, et quelqu'un qui est un peu alsacien, enfin bon. Donc... Bon, c'était ça, quoi. Non, mais je ne crois pas qu'il y ait eu compétition entre Camus et Merleau-Ponty pour les beaux yeux de Sartre, pas du tout.
Il a manifestement, enfin, on sent ça dans Humanisme et Terreur, la volonté de prolonger un état de fait qui était né de la guerre, qui était une certaine gauche. Est-ce qu'il ne s'est pas enfermé dans une vision intellectuelle et philosophique de cette gauche qui était concrètement pas tenable dans les années d'après-guerre?
Oui, je pense d'ailleurs qu'il faut quand même complètement distinguer l'œuvre philosophique de Merleau-Ponty et puis tout ce qu'il a pu écrire à propos de la Russie, justement, à propos du communisme, à propos de le Yogi le commissaire. Il était au début dans la voie kesslerienne là, d'explication des procès de Moscou. C'était d'ailleurs une vision que beaucoup de gens, presque tout le monde partageait, jusqu'au jour où on a vu que c'était plus simple que ça, quoi. Façon de faire avouer les accusés.
Est-ce qu'il y a eu le sentiment qu'il était sorti de son rôle, finalement, en se mêlant de politique? Et est-ce que c'est une façon d'expliquer aussi sa sortie hors des temps modernes et sa brouille avec Sartre?
Non, enfin, la brouille, dans le fond, elle est un peu politique. Enfin, je suppose, pas seulement, mais enfin, elle est beaucoup politique. Et je ne crois pas qu'il s'était fourvoyé, parce que tout le monde, quand même, à cette époque-là, parlait d'engagement, se sentait engagé. Il ne pouvait pas rester indifférent à ce problème que posait soudain la Russie avec la découverte du stalinisme. Enfin, d'autres l'avaient découvert avant, mais il y a eu, dans le fond, tous les 10 ans, il y avait une classe d'âge, je ne sais pas comment dire, qui découvrait les horreurs du stalinisme, ce qui n'empêchait pas des néophytes d'adhérer au communisme. Et puis à leur tour, ils étaient désenchantés.
L'opposition aussi à Sartre qui a fait leur brouille, c'est ce que lui reprochait Merleau, c'est d'être toujours à la remorque de l'événement, hein, de ne pas le situer dans une certaine histoire, et donc de dénoncer, ou d'approuver, notamment sur la guerre de Corée. Bon, toujours l'opposition entre une pensée tranchante, dont on a besoin aussi, je ne veux pas non plus médire de Sartre, hein, parce que si, pour moi c'est un couple, vous parliez de jumeaux, il y a une certaine gémellité là, hein. S'il y avait que des tranchants comme Sartre, Dieu sait où ça nous mènerait, hein, ça peut nous mener très loin, celui-là c'est un salaud, pourquoi pas exécuter. Et s'il n'y avait que des pensées aussi subtiles et nuancées que Merleau-Ponty, on ne saurait peut-être pas très bien non plus à quoi se raccrocher. Donc pour moi, il faut les deux. Je crois qu'un des malheurs de Merleau-Ponty est d'avoir été toujours lui, l'avoir toujours pris comme interlocuteur réel ou imaginaire Sartre, et qu'il n'y ait pas eu de répondant. C'est, je crois, très, très sensible, et c'est jusqu'à leur brouille finale. Je ne sais pas si vous avez jamais lu l'échange de lettres qui avait été publié à l'époque, il y a quelques années, dans le magazine littéraire, où il y a un échange de longues lettres très vifs, et là on sent que Merleau était extrêmement blessé par... l'attitude de Sartre qui, à la suite de Ragot, avait entendu ou prétendu entendre dire que Merleau ne l'avait critiqué dans une conférence donnée à l'École normale. Et ces lettres de la part de Merleau sont vraiment pathétiques et en même temps violentes. Hein, il ne se laisse pas faire, il répond très très vivement à Sartre. Je me souviens de cette phrase, par exemple, de Merleau lui écrivant « Je ne vois pas où tu prends le droit de me blâmer, c'est me blâmer de n'être pas toi. » C'est exactement ça, parce que ça, sous ses allures comme ça, ouvert au dialogue, à la contestation, si on ne pensait pas comme lui, il n'aimait pas ça du tout.
Comme Diderot le disait du comédien en scène, nous avançons que tout homme qui accepte de jouer un rôle porte autour de soi un grand fantôme, dans lequel il est désormais caché, et qu'il est responsable de son personnage, même s'il n'y reconnaît pas ce qu'il voulait être. Le politique n'est jamais aux yeux d'autrui ce qu'il est à ses propres yeux, non seulement parce que les autres le jugent témérairement, mais encore parce qu'ils ne sont pas lui, et que ce qui est en lui erreur ou négligence, peut être pour eux mal absolu, servitude ou mort. Acceptant avec un rôle politique une chance de gloire, il accepte aussi un risque d'infamie, l'une et l'autre imméritée. L'action politique est de soi impure, parce qu'elle est action de l'un sur l'autre et parce qu'elle est action à plusieurs. Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur.
Du primat de la perception ressort une métaphysique de l'ambiguïté. Le sens n'est jamais une chose achevée, absolument claire ni distincte. En poursuivant ses analyses perceptives dans l'arène où les gens se débattent ensemble, le philosophe écrivain a pris le risque d'être mal compris. Dire que toute action est ambiguë laisse pas faire le jeu d'un relativisme absolvant. Tout le trajet politique de Merleau-Ponty, qui se déroule au présent, à vif, sur le terrain intellectuel de la mise en perspective, se joue au nez et à la barbe des acteurs éclaboussés du sang de l'histoire, encore assourdis par les cris, ceux des autres et les leurs. C'était une époque avec deux camps, et personne ne voulait comprendre. Tout le monde voulait avoir raison, il fallait prendre parti. Au moment de son élection au Collège de France, il prit ses distances avec la gauche communiste et mit les intellectuels en demeure de sortir de la pensée antithétique, d'arrêter de faire froidement la guerre avec des idées. Mais pour ceux qu'il voyait rouge depuis 1945, il le resterait, et pour les autres, il devenait un traître. Sartre n'avait-il pas dit « Tout anticommuniste est un chien ».
Vincent Payon, quel est le statut du marxisme dans le développement de la pensée philosophique de Merleau-Ponty?
Merleau-Ponty fait partie des gens qui, à juste titre, à mon sens, considèrent Marx comme un auteur tout à fait important et déterminant. Il l'a donc lu avec attention. Il a trouvé chez Marx des éléments qui lui semblent être des éléments valides d'interprétation de l'histoire, et en même temps, dans le fond, une grande limite, qui est précisément que pour lui, Marx est un théologien au sens le plus classique du terme, ou un métaphysicien, si on veut parler dans le langage d'Heidegger, c'est-à-dire un penseur de la coïncidence. Coïncidence qui, dans la théorie marxiste, va s'exprimer à travers le prolétariat, qui va être, dans le fond, la conjonction de l'universel et du singulier. Et c'est le point de rupture pour Merleau-Ponty. Là, il y a une théologie marxiste qui est précisément ce que son effort de pensée essaye de dépasser. Puis le deuxième élément qu'il faut quand même avoir bien en tête, c'est que Merleau-Ponty vit à l'époque où le marxisme est non seulement une théorie, mais un formidable mouvement, à la fois à travers, bien entendu, l'Union soviétique et les pays de l'Est, c'est la grande affaire de l'histoire, mais aussi en France, où le Parti communiste est extrêmement puissant. Et donc, à travers Humanisme et terreur, à travers les aventures de la dialectique, il est en permanence confronté à un dialogue, pas seulement avec Marx, mais avec ceux qui se réclament de Marx. Et là, ce dialogue est évidemment d'une autre nature, et parfois un peu difficile, conflictuel, comme il l'a été avec Sartre, ou comme il l'a été avec les communistes.
Vous avez parlé du statut de l'erreur pour le développement de la pensée. Est-ce qu'on a le droit en politique de se tromper? C'est-à-dire que Merleau-Ponty lui-même a été obligé de revenir sur Humanisme et terreur, où il avait sous-estimé la nature répressive du régime soviétique. Est-ce que là, il n'a pas touché aux limites d'une certaine démarche?
Je crois que l'expérience de l'erreur en politique pour Merleau-Ponty est absolument déterminante. Parce que mon analyse... Et je crois que ce point n'a pas été bien compris chez Merleau-Ponty. Mon analyse, c'est que l'évolution de la phénoménologie de la perception au visible et à l'invisible, elle passe par la politique. C'est le formidable drame qu'il vit lui-même de cet échec de la politique qui prétendrait à la vérité intégrale, qui l'amène à reconsidérer ses postulats métaphysiques mis en œuvre dans la phénoménologie de la perception. C'est parce que la pensée de la coïncidence, la pensée métaphysique, amène à ces barbaries-là qu'il faut alors réellement revenir sur l'aspiration même, qui est la volonté, dans le fond, de mettre un terme au tourment, de mettre un terme à la différence, de mettre un terme à l'écart, ce qu'il appellera l'écart. Il faut accepter une pensée qui est une pensée de la non-coïncidence. Parce que quand on veut en sortir, quand on veut la coïncidence, eh bien, on arrive, on a le risque de se déboucher, qui est le risque totalitaire. Et ça, je crois que, dans le fond, il n'y a pas les livres de philosophie de Merleau-Ponty, puis ces livres politiques, comme les gens l'ont lu. Je crois que Humanisme et Terreur, Les Aventures de la Dialectique, sont deux grands livres de philosophie, et c'est eux qui expliquent le mieux, dans les années 50, le passage entre la phénoménologie 45 et ce qu'on appelle les derniers écrits. C'est cette crise politique, c'est cet approfondissement du politique. Car il y a une grande unité entre phénoménologie de la perception et Humanisme et Terreur. Et Les Aventures de la Dialectique viennent ouvrir la nouvelle phase de pensée ontologique parce qu'elles viennent dire très nettement fin de la théologie, fin de la coïncidence, nécessité de la pensée d'écart et de rester dans la pensée d'écart qui est une pensée de l'inquiétude, de l'insatisfaction, mais qui s'accepte comme telle. Et là, il retrouve cette vieille sagesse de la tradition dont on parlait tout à l'heure, mais avec l'influence très importante dont on pourrait parler du scepticisme et de Montaigne, c'est-à-dire l'idée que, dans le fond, il y a une folie de l'humanité et que cette folie qui nous définit est une folie qui est en elle-même insurmontable et il serait encore plus fou de vouloir la surmonter, soit dans ses coïncidences absolues, dans le rationalisme intégral, dans le marxisme tel qu'il a été à un moment, fin de l'histoire, je possède la vérité, dictature du prolétariat, et qu'il faut accepter cette humanité de la dispersion, c'est-à-dire l'impossible coïncidence de la pensée et de l'être, qui est aussi impossible coïncidence de soi à soi-même, impossible coïncidence de soi à l'être aimé, impossible coïncidence qu'on retrouve en tous les éléments. Et dans le fond, la sagesse, et si la philosophie doit avoir un sens, elle a aussi cette forme de sagesse qui a une existence dans la cité, eh bien la sagesse, c'est d'accepter ce jeu sans fin de la conscience à autrui, de la conscience à son corps, de la conscience, et à aucun moment on ne peut se dire, voilà, l'unité est faite, l'unité est réalisée.
L'état de tension dans lequel nous vivons, dans tous ces domaines, tient à ce que on s'est aperçu que rien ne pouvait être séparé dans la vie humaine. Enfin, c'est une formule qui est extrêmement banale, mais c'est la seule manière que je vois d'exprimer ce qui est incontestablement vrai dans la pensée marxiste, dans son sens le plus général.
L'idée que tout vient en même temps.
Que tout vient à la fois, que tout interfère, qu'il n'y a pas une histoire économique, une histoire de la pensée, une histoire morale, mais que la vie humaine, c'est tout cela noué ensemble, en interaction totale. Mais alors, en même temps qu'on a découvert la solidarité de tous les aspects de la vie de l'homme, personne n'a réussi, néanmoins, à les faire marcher du même pas, si je peux dire. Je veux dire que la solidarité que nous constatons entre tous les secteurs, tous les niveaux de la vie humaine, cette solidarité, c'est plutôt une solidarité pour le mal que pour le bien. Je veux dire, nous voyons bien comment des dégâts dans un domaine se répercutent dans l'autre. Nous voyons bien comment, par exemple, il est impossible, à la limite, pas dans un certain degré de chaos politique, il était absolument impossible qu'une vie intellectuelle demeure, qu'une vie spirituelle demeure. Alors, nous constatons que tout est lié, mais tout est lié plutôt pour dépérir que pour croître, voyez-vous. Autrement dit, je vous disais l'autre jour à propos, quand nous avons parlé longuement du marxisme, je vous disais qu'il me semblait absolument vrai que l'histoire humaine est un tout concret et que c'était, à mon sens, une acquisition du marxisme d'avoir enseigné cela. Mais par ailleurs, je vous disais, les solutions de Marx, c'est-à-dire la clé qu'il a donnée de cette histoire humaine, ainsi comprise comme un tout, cette solution ne me paraît pas satisfaisante et cette clé ne fonctionne pas, ne semble pas fonctionner pour toute une série de problèmes qui se posent aujourd'hui et que Marx ne soupçonnait pas encore.
Quand j'avais vu Merleau-Ponty, c'était donc en 56-57, Et il m'avait dit, vous savez, actuellement, je suis en train d'écrire quelque chose, mais très différent de ce que vous connaissez, parce que moi, mon travail portait sur la phénoménologie de la perception et sur la structure du comportement. Et il me dit, je fais quelque chose de très différent de ce que j'ai fait. J'estime qu'il y a un changement, et enfin, vous le verrez. Alors, changement, oui. Enfin, moi, je trouve que c'est une prolongation, un approfondissement, et qui vont dans quel sens ? Dans le sens où ce qu'il nomme l'expérience de l'être au monde implique, c'est une expression, enfin, l'Inderwelt sein, l'expression qui apparaît chez Husserl, qui apparaît chez Heidegger, mais lui la traite à sa manière. C'est ça sa grande originalité. Il la traite à sa manière et cette expérience de l'être au monde s'approfondit chez lui par une interrogation sur la relation de l'individu que nous sommes, nous les existants, les humains, par rapport à notre manière de nous projeter sur notre environnement, de nous saisir nous-mêmes sur cet environnement. Et si on lit des passages de la phénoménologie de la perception, on trouve absolument les préoccupations du visible et l'invisible, et de l'entrelac et du chiasme. Mais elles sont, moi je dirais, travaillées en profondeur et en même temps avec une nouvelle orientation à donner à ce que je préfère appeler une configuration humaine, plutôt qu'un individu, ce n'est pas un simple existant, ce n'est pas un Dasein, c'est une configuration humaine qui est, selon ces termes d'entrelac, de chiasme, c'est l'ineinander de Husserl, qui fait que, de plus en plus, on ne peut plus dissocier, non seulement le visible de l'invisible, mais on ne peut plus dissocier l'existant humain de ses entours.
Je crois qu'il s'agit d'un mouvement absolument continu.
Renaud Barbaras.
À aucun moment on ne trouve un tournant véritable, un virage. Si on lit de près, on voit qu'il s'agit d'un effort, d'un même effort, et que dès le départ, c'est très impressionnant là aussi, mais je crois que c'est le propre des grands penseurs, dès le départ, c'est-à-dire dès les années 30, hein, l'intuition qui féconde toute sa pensée est là. Hein, il sait dès le départ ce qu'il veut penser. Et d'autre part, pour aller dans le sens de la continuité, si on lit attentivement le visible et l'invisible, on est très frappé par la continuité avec la structure du comportement par-dessus, par-dessus la phénoménologie de la perception et par-dessus certains textes des années 50, notamment, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, autour de la question de la gestalt. Il y a une reprise hein, du thème de la gestalt sur un plan ontologique, je veux dire de manière explicite, hein, dans des notes de travail du visible et invisible, 20 ans après ou 25 ans après, qui attestent d'une très très forte continuité. Alors maintenant, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des étapes, des moments de coupure, de discontinuité, évidemment, hein, qui tiennent très souvent d'ailleurs à l'apport d'un auteur ou à la découverte d'un champ. Alors, évidemment, on pourrait aussi dire qu'il y a une rupture repérable et comment dirais-je, littéralement attestée, qui est le passage à une ontologie. Mais là aussi, si on lit de près, il ne faut pas s'en tenir aux mots, et en rester aux mots, si on lit de près la manière dont il caractérise l'ontologie dans le visible et l'invisible, on se rend compte qu'il ne s'agit pas du tout il s'agit pas d'autre chose que ce qui était en question dès la phénoménologie de la perception. Les mots changent, on assiste à une radicalisation, sans aucun doute, mais en aucun cas une rupture.
Il a écrit, c'est la structure du comportement, je crois qu'il avait une trentaine d'années, c'est un livre absolument remarquable. Phénoménologie de la perception, peut-être 40 ans, il a soutenu ses thèses très tôt. Une thèse d'une qualité exceptionnelle, mais déjà j'assistais à la soutenance de thèse, comme on dit, et je me souviens qu'un de ces, je crois que c'était Monsieur Breyer, qui l'aimait beaucoup, mais qui avait déjà dit, voilà, il y a comme un jeu de raquettes, je me souviens de l'expression, entre vous opposez, il y a l'empirisme, il y a l'intellectualisme, vous balancez toujours d'un côté et de l'autre, donc il avait déjà saisi cette difficulté qu'il y a à trouver une ligne bien nette dans la pensée de Merleau-Ponty. L'inachèvement, là il y a un événement qui est à mon sens décisif, c'est, je ne trahis pas un secret, Merleau-Ponty était très attaché à sa mère. Son père, il ne l'a pas connu, je crois que c'est un enfant posthume. Et sa mère a été longtemps malade, d'une maladie incurable, comme on dit, ce qui l'a profondément bouleversé. Et je crois que la dernière étape, c'est un peu réducteur, dit comme ça, je ne veux pas dire que ce soit cet événement-là qui ait orienté sa philosophie, mais que sa dernière étape est très liée à la mort de sa mère, notamment à tout ce qui l'a amené du côté du visible et de l'invisible, de la mère perdue de vue et toujours présente dans son absence. Ça a été sûrement un événement, je ne dirais pas déclencheur, mais qui a... Ce qui fait d'ailleurs que Sartre aussi, pour d'autres raisons, s'est sûrement détaché de lui. Vous n'oubliez pas que Merleau-Ponty était dans sa jeunesse catholique. Quand il était à l'école normale, il faisait partie de ce qu'on appelait les Talas. Et peut-être, de façon complètement transposée, toute son insistance sur la chair dans les derniers écrits, au fond sur l'incarnation, est liée à ce passé-là.
On peut préciser que ce retour à la question du langage vient d'une, pour ainsi dire, d'une insuffisance, selon son propre, ses propres termes, d'une insuffisance au sein de la phénoménologie de la perception. C'est-à-dire, son projet, si vous voulez, c'est de faire non pas seulement une phénoménologie de la perception, mais une philosophie de la perception. C'est-à-dire qu'il découvre, au niveau de la perception, tout simplement, un certain type d'être, hein, et un type de rapport au monde, et dont il pense qu'on peut le généraliser à tout étant, c'est-à-dire à tout type d'être possible. Y compris à l'être idéal, c'est-à-dire à un pur concept, voire à une idéalité mathématique. Donc la vraie question de Merleau-Ponty, c'est de savoir dans quelle mesure on peut étendre les résultats de la phénoménologie des perceptions à l'être dans son intégralité, et en particulier à l'être idéal. Parce qu'évidemment, l'objection à laquelle il s'expose, c'est la suivante. Ce que vous dites vaut comme description de l'être sensible, de l'être concret, hein, de l'être perçu, donc, si vous voulez, mais tombe aussitôt, et tombe au plan de l'anecdote psychologique, je reprends un terme de Merleau-Ponty, dès qu'on s'intéresse au domaine de la pure idéalité. À ce moment-là, la pensée d'entendement et la philosophie transcendantale reprend ses droits. Or, Merleau-Ponty vont montrer que jusque dans les sphères les plus élevées de l'idéalité, on retrouve le même type d'opacité, vous voyez, pour dire vite, et le même type, disons, de donation par esquisse, pour reprendre les termes à Husserl, les termes husserliens, le même type de donation par esquisse qu'on trouve au niveau du perçu sensible. D'où le passage au langage, d'où l'intérêt pour le langage, puisque son but, enfin pour montrer ça plutôt, il va établir que toute idéalité, aussi idéale ou abstraite soit-elle, est prise dans une matérialité propre, hein, qui est la matérialité linguistique, qui renvoie elle-même en dernière instance à une gestualité corporelle, en l'occurrence à une gestualité articulatoire. Donc le but du passage par le langage, évidemment c'est capital, hein, c'est de généraliser la phénoménologie de la perception à une philosophie de la perception, en montrant que l'être idéal est aussi d'une certaine façon un être perçu, c'est-à-dire un être qui s'esquisse dans une matière dans laquelle il demeure pris, et une matière qui lui confère une opacité irréductible, si vous voulez. Et en ce sens, le passage par le langage le conduit à des conclusions qui sont aux antipodes du structuralisme. Hein. Et d'ailleurs, il va lire Saussure dans un sens absolument opposé à celui des structuralistes, vous voyez. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette étape, en effet, très importante du langage, mais qui aura, après coup, par la suite, à l'époque du visible et de l'invisible, un effet en quelque sorte rétroactif ou sur le monde perçu, puisque il va se rendre compte que si vraiment le langage est possible tel qu'il l'a défini, eh bien il faut repenser pour le coup le monde perçu comme sol de ce langage, et alors la métaphore linguistique va se généraliser. Et par exemple, il va utiliser la fonction diacritique du signe qui vient de Saussure pour décrire l'être perçu lui-même. Hein. Il y a une sorte de généralisation du langage. C'est-à-dire qu'il va trouver dans le langage, dans la donation de l'idéalité à travers le langage, dans le langage, un type d'apparition, si vous voulez, dont il va s'apercevoir qu'il convient pour toute apparition, y compris pour cette apparition originaire qui est l'apparition d'une chose perçue.
La philosophie n'est pas un champ autonome. Le propre du philosophe, c'est de réfléchir sur quelque chose qui est toujours prospecté par un autre. Ou bien on prospecte ce que la biologie ou la physique les études linguistiques nous disent du langage, de l'enfant, de l'homme, etc. Ou de la structure de l'univers. Ou bien on médite sur l'acte du peintre ou l'acte du poète. Et le propre du philosophe, à mon sens, c'est toujours ou bien ce que les hommes ont fait de l'histoire, ce que les hommes font de l'économie. Donc le propre du philosophe, c'est toujours de s'appuyer sur, nécessairement, des recherches préalables. Mais l'attitude fondamentale aussi du philosophe, à partir du moment où il touche à l'ontologie, c'est de méditer sur son rapport perceptif avec le monde. Il est clair. et s'il fait de l'ontologie, à voir la manière dont la problématique de l'être se détache de tout ce que l'on peut dire à propos d'une assertion immédiate et facile. Le problème de l'être étant pas celle de l'étant, etc. Donc, il y a chez Merleau-Ponty un intérêt très vif à l'égard de tout ce qui peut concerner la formation et le développement de l'esprit humain au contact du monde, mais aussi avec toutes les couches de la sédimentation historique et aussi couches de sédimentation linguistique qui fait qu'on ne médite pas dans ce terrain vierge. Il y a, la Merleau-Ponty était extrêmement attentif à tout ce problème des sédimentations de Husserl qui fait que si effectivement il faut toujours chercher à enraciner les significations dans un contact vécu avec les choses, avec le monde, il faut aussi toujours tenir compte de toutes les couches sédimentées de l'histoire, de la culture, qui permettent de les connaître. Alors, lorsque Merleau-Ponty s'intéresse, par exemple, à la peinture, ou lorsqu'il s'intéresse à la création littéraire chez Proust, c'est toujours pour voir la manière dont, sous l'ordre des significations existantes, sous l'ordre institué des symboles, le peintre, comme l'artiste créateur, va directement au monde. Alors, il y a toujours ce dialogue, n'est-ce pas? Et c'est entre là, et ce chiasme aussi, entre l'ordre institué de notre connaissance et la manière dont l'artiste fait une sorte d'époquée culturelle pour tenter une percée personnelle dans son rapport aux choses. C'est qu'il découvre, aussi bien à travers les propos de Paul Klee, qu'à travers ceux de Cézanne, il découvre, ceux de Pignon, de Masson, il découvre une sorte d'époquée spontanée de l'artiste qui le met au contact vivant des choses. Et cette manière étrange, d'ailleurs dans les propos de Masson qu'il cite, où l'artiste a l'impression que le monde pense à travers lui. Il cite d'ailleurs cette phrase chez Cézanne, qu'il passait une centaine d'heures de méditation devant la montagne Sainte-Victoire avant de se projeter sur ses esquisses, et qui disait « le monde », la phrase qu'il attribue à Cézanne, selon les propos de Madame Cézanne, « le monde se pense en moi et je suis sa conscience ». Alors c'est la manière dont la pensée d'entre-là et de chiasme est si forte pour l'artiste qu'on ne sait plus trop si la pensée émane des choses ou si elle vient de lui, phrase qu'on retrouve d'ailleurs chez Baudelaire dans le Confiteor de l'artiste. Toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles, mais pittoresquement, sans syllogisme, sans déduction. Et pour Merleau-Ponty, c'est cet intérêt selon lequel il y a un travail du regard, un travail du regard qui s'accomplit par le geste, et où la nouvelle dimension d'être qui apparaît à travers l'œuvre ne peut se faire que par la création. Alors on retrouve une de ces phrases bien célèbre, bien connue, « L'être est ce qui exige de nous création pour que nous en ayons l'expérience. » Et ça, c'est le sentiment profond, je crois, de l'artiste. L'artiste a besoin de créer pour essayer de comprendre où il en est avec l'être.
Jacques Garelli, Merleau-Ponty a aussi dit qu'il était impossible d'avoir une méthode directe pour accéder à l'être. Si bien que ce que l'artiste peut, le philosophe ne le peut pas. Est-ce que, d'une certaine façon, sa propre philosophie ne s'est pas mise dans une impasse?
Oui, en particulier dans un texte qu'il a écrit, c'est « Le langage indirect et les voies du silence ». Mais je pense que ce n'est pas du tout une impasse, mais c'est au contraire le cheminement par des détroits, dans le sens où on parle des Dardanelles qui seraient un détroit ou le Bosphore qui serait un détroit. Et ce cheminement indirect est caractéristique de la philosophie. Alors, l'artiste, lui, en tant que créateur qui met en circulation des formes qui n'existaient pas, aurait ce contact peut-être... Alors, moi, personnellement, j'ai cette double attitude d'écrire des poèmes et d'autre part de réfléchir dessus. Et je suis absolument convaincu que les deux attitudes vont ensemble, mais pas au même moment.
Pourquoi Merleau-Ponty n'a-t-il pas fini un livre après 1945? Après l'édition de ses deux premières thèses, le reste de son œuvre, publiée de son vivant,
consistait en des réunions d'articles qui se rassemblaient en des voisinages articulés, opus incertains, variations contiguës. Depuis, on découvre des manuscrits inachevés, des notes de cours, qui sont par un sens inachevées puisqu'encore inexprimées. Le philosophe, d'ailleurs, s'en éloignait souvent devant son auditoire. Si bien que l'engouement que suscite sa philosophie, c'est aussi celui pour une pensée majeure émiettée, en suspens, à la fois constituée et toujours impensée, une œuvre ouverte. La phrase de Merleau-Ponty est unique parce qu'elle mesure l'épaisseur du silence qui nous traverse, parce qu'elle naît de son impossible succès. Une philosophie qui recommence toujours le chemin, car là où elle va, la fin est obscure. Le point qui clôture est aveugle, muet, ébloui, sublime. L'œuvre devient elle-même une figure du chiasme.
Renaud Barbaras, est-ce que le vocabulaire de la chair, de l'entrelacs, du chiasme, c'est pas quelque chose qui a tellement fasciné les lecteurs du dernier Merleau-Ponty que ça les a coupés justement de ce qui précédait?
Vous avez raison. Évidemment, c'est à mettre en rapport avec la question de la réception de son œuvre. Il y a eu un effet d'occultation, au début en tout cas, des textes antérieurs par le visible et l'invisible. Alors ça tient au caractère en effet fascinant, c'est le mot de ce livre, et pas seulement à cause de son inachèvement, parce que véritablement c'est un texte extraordinaire, et surtout les notes de travail qui sont bon, des notes qui n'étaient pas évidemment écrites en vue d'une publication, donc elles ont une sorte d'éclat, de fulgurance, et en même temps d'opacité, Qui les rend proprement fascinantes. Moi, je veux dire, ça fait maintenant 20 ans que je lis ces notes, je les relis, et elles sont pour moi une source d'inspiration et de pensée inouïe et inépuisable. Enfin, c'est quelque chose, et je crois que tout le monde, enfin, quiconque a vraiment pénétré un petit peu ces textes, vit ça. Donc, c'est un texte de référence, mais il a un statut très particulier, parce que c'est un texte inachevé, fragmentaire, et en tout cas fascinant, en effet. Mais je crois que c'était une œuvre qui était en voie d'achèvement ou d'accomplissement, hein, je pense, malgré, je crois, les très grandes difficultés qu'il rencontrait à aller jusqu'au bout de cette théorie de la chair, et on pourrait effectivement montrer qu'il y a là des obstacles théoriques extraordinaires. Hein. Et c'est pour ça qu'en ce sens, il y a un apprécié de Merleau-Ponty, parce qu'il y a là une tâche pour l'avenir considérable. C'est là aussi ce qui le caractérise comme un grand philosophe. Mais quoi qu'il en soit, je crois qu'il n'y a pas de statut d'inachèvement. Simplement, comme Ricoeur l'écrit en substance quelque part, c'est incroyable, effectivement, qu'une philosophie d'inachèvement soit restée elle-même inachevée. Mais disons que c'est un hasard. Hein. Et puis, après tout, le terme de philosophie d'inachèvement lui-même mériterait d'être discuté, si vous voulez. Effectivement, il entendait par là que c'est une philosophie qui est toute attentive à tous les niveaux, au surgissement du sens, au sens, au niveau, au moment de son surgissement. Et donc, comme il écrit quelque part, il n'y a que des ruines de l'esprit, hein, dans les notes de travail du visible et l'invisible, et il y a bien cette idée, si vous voulez, que toute tentative de dépassement, toute idéalisation, toute production est, pour ainsi dire, reprise par le seul obscur dont elle émerge. Donc c'est en ce sens-là, je crois, que Ricoeur l'entendait.
Les choses empiètent les unes sur les autres parce qu'elles sont l'une hors de l'autre. La preuve en est que j'ai pu voir de la profondeur en regardant un tableau qui, tout le monde l'accordera, n'en a pas, et qui organise pour moi l'illusion d'une illusion. Cet être à deux dimensions, qui m'en fait voir une autre, c'est un être troué, comme disaient les hommes de la Renaissance, une fenêtre. Mais la fenêtre n'ouvre en fin de compte que sur le partes extra partes, sur la hauteur et la largeur qui sont seulement vues d'un autre biais, sur l'absolue positivité de l'être. Merleau-Ponty, l'œil et l'esprit.
Est-ce que la pensée de Merleau-Ponty est faite pour accueillir des disciples et des continuateurs?
C'est pas pareil. Des disciples, non. Des disciples, qu'est-ce que c'est? Des disciples, d'abord, il faut se poser soi-même en maître. Un maître, ça veut à la fois des disciples, pour conforter sa position de maître, et ça n'en veut pas, parce que les disciples sont toujours inférieurs au maître et risquent de trahir votre pensée. Je pense à Lacan, par exemple. Cette position de maître qui, à la fois, a besoin de disciples, ne serait-ce que pour propager sa pensée, et qui les récuse parce qu'ils sont minables, vous avez compris tout de travers ce qu'ils voulaient enseigner. Continuateur, donc, Merleau-Ponty ne s'est jamais lui posé en maître, jamais. Sartre, à son insu, je crois, mais quand même avait une position de maître, et pouvant trancher là aussi sur tout. Mais continuateur, oui. Et je ne pourrais pas vous donner de nom, je ne pense pas que ça sera... Ce n'est pas forcément, encore une fois, des philosophes, hein, professionnels, disons, encore qu'il y en ait. Mais continuateur, si j'ose dire, à ma très modeste façon, je me considère comme... Je me considère dans mon domaine comme... je ne vais pas continuer, le mot est trop prétentieux, mais comme... Dans la lignée, dans l'héritage, on veut, dans la filiation de Merleau-Ponty. Et c'est peut-être plus important que d'avoir des disciples, c'est d'avoir constitué une pensée, écrit une œuvre qui nourrit les générations suivantes sans qu'on soit dans la continuité directe. C'est pas forcément parce qu'il n'y aura pas de nouveaux professeurs merleau-pontiens que la pensée de Merleau-Ponty perdra quoi que ce soit de sa fécondité pour chacun de nous.
Il s'agit toujours de savoir comment on lit les grands auteurs, qui les lit et est-ce que vraiment on les lit. Parce que je me demande pour finir s'il y aura plus de lecteurs de Kant, de Bergson, de Heidegger, du Cercle que de Merleau-Ponty. Je ne pense pas. Et je pense que simplement. La manière dont on parle de ces auteurs est différente. Mais en ce qui concerne Merleau-Ponty, à partir du moment où il travaille véritablement en force, à une ouvre, on se plaint toujours de ce que les philosophes répètent les choses et ne nous donnent pas une nouvelle vision du monde. Voilà un homme qui nous donne une nouvelle vision du monde et à ce moment-là, on se plaint qu'on ne veut pas le référer à ce qu'on sait déjà. Alors, la plupart des personnes, c'est pas lisent quelque chose pour se convaincre de ce qu'ils savent déjà. Ils disent « Ah, le philosophe l'a dit, très bien, moi je pensais déjà ça. » Mais avec une entreprise telle que celle de Merleau-Ponty, celle des grands philosophes, on est obligé d'aller dans une terre inconnue. Donc on est obligé de refaire soi-même un chemin. Et moi, je me plais à toujours comparer l'ouverture de piste du philosophe à l'ouverture de piste du skieur. Si un skieur descend en ouvrant une piste, et que les gens veulent le suivre sans faire l'effort et sans avoir l'art de descendre, ils tombent dans les 10 mètres. Si quelqu'un suit un guide en haute montagne et qu'il ne s'est pas préparé à le faire, il restera dans la plaine, il n'ira pas très loin. Alors on voudrait que le philosophe à la fois nous dise des choses neuves et puis que ça ne demande aucun effort parce qu'on voudrait qu'il nous donne des informations. Il ne peut pas donner des informations. Il ne peut qu'ouvrir une expérience de pensée en invitant le lecteur qui le suit à lui-même, en fonction de sa propre expérience, de ses lectures, de poursuivre ses expériences de pensée. Alors, cela limite énormément le nombre des lecteurs. Je m'amuse aussi à dire, il y a des millions de gens sur les Champs-Élysées, il y en a 4 qui se trouvent sur la paroi nord de Léguerre au mois de janvier. Alors, Merleau-Ponty a plus de 4 lecteurs, mais c'est aussi de la haute montagne qu'il fait.
Surpris par la nuit, redécouverte de Merleau-Ponty, la pensée interrompue. Marc Armingo, Gaël Gillon. Avec Renaud Barbaras, Roger Grenier, Jacques Garelli, Vincent Payon et Gibier Pontalis. Mixage, Noélie Louis-Marie, Aurélia de la Tuilerie. Archivina, Catherine Louis. Lecture, Diffie Mariani. Thank you.
C'était Redécouverte de Merleau-Ponty, La pensée ininterrompue, un numéro de Surpris par la nuit consacré au philosophe français Maurice Merleau-Ponty, diffusé pour la première fois le 4 octobre 2000 sur France Culture.